Deutsche Welle. Pulsation.
Des millions d'enfants travaillent à travers le monde. Nous irons notamment en RDC, dans un camp du sud-est du pays, où ils commencent parfois très jeunes. En fin d'émission, nous donnerons un coup de projecteur sur Anne Frank, la jeune juive victime de l'Holocauste et dont le journal intime est devenu un classique de la littérature, dont c'est l'anniversaire de la naissance aujourd'hui. Mais tout d'abord, le mot du jour en rapport avec le thème du jour, le travail des enfants. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Le 12 juin est célébré comme chaque année depuis 2002 la Journée mondiale contre le travail des enfants à l'initiative de l'Organisation internationale du travail. Selon l'OIT, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Il s'agit le plus souvent d'activités à but lucratif qui s'apparentent plus ou moins à l'exercice d'une profession par un adulte. Selon l'article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant, celui-ci a le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques pour son éducation ou sa santé. En pratique, on distingue le travail acceptable, qui s'intègre dans l'éducation de l'enfant et dans la vie familiale et qui parfois permet la scolarisation, et le travail inacceptable, trop longtemps, exercé trop jeune et trop dangereux. Or, environ 168 millions d'enfants, soit 11% de tous les enfants sur la planète, sont privés de leur enfance à cause du travail. Et parmi eux, 115 millions exercent des activités dangereuses. La grande majorité des enfants travaillent dans le secteur agricole, 59%. Mais les pires formes de travail des enfants comprennent l'utilisation d'enfants comme esclaves, la prostitution, la vente de drogue, le crime ou l'enrôlement comme soldat dans des situations de conflit ou pour d'autres travaux dangereux. Le 12 juin, la Journée mondiale contre le travail des enfants est dédiée donc à tous ces enfants forcés de travailler alors qu'ils devraient être à l'école. En Europe, lors de la révolution industrielle dès la fin du 19e siècle, le travail des enfants a été pratiqué à grande échelle, notamment dans les mines de charbon où leur petite taille leur permettait de se déplacer dans les conduits très étroits. Aujourd'hui, le travail des enfants concerne principalement des pays en développement ou émergents, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
Dans la vie, il n'y a pas de...
À présent, une pause musicale, on écoute travailler du groupe ivoirien Magic System.
J'ai fait au bon Dieu, s'il t'a donné la santé. Le reste est une histoire de temps, mon ami, faut prier. Un jour ça va aller. Oh. Travailler, il faut travailler.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation. Nous parlons aujourd'hui du travail des enfants à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau. Les chiffres diffèrent selon les organes qui les publient, mais dans le monde entier, on dénombre plus d'une centaine et demie de millions d'enfants, c'est-à-dire des mineurs, qui travaillent dans des conditions plus ou moins difficiles et dangereuses. Certains sont dans l'obligation de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. D'autres sont encore moins bien lotis dans la mesure où ils sont réduits à l'esclavage. Autrement dit, ils ne reçoivent pas la moindre rémunération en échange de leur travail. Difficile d'illustrer ce genre de situation autrement que par la fiction. Voici donc un extrait de notre feuilleton radiophonique que vous connaissez peut-être, à la croisée des chemins. Kadou et Banda ont été victimes de trafiquants d'êtres humains et travaillent dans une mine. Kadou rêve de ce douloureux épisode de sa vie.
Je ferais mieux de dormir un peu comme mes frères. Kadou dort à point fermé. Je me demande bien de quoi il rêve.
Hé hey, fais attention avec tes pierres. Tu fais que la mine s'écroule et nous tue tous.
Mais j'ai faim. Et même me font mal.
On a tous faim. Et nous aussi, nos mains nous font mal. Pas vrai, les gars?
Oui.
Je ne vous ai pas entendu, hein?
Oui.
Tu as entendu? Tout le monde a faim. Mais ici, pour manger, il faut d'abord travailler. Alors, remettez vos boulots. Sinon, pas de repas ce soir.
Mais surveillant, mon frère Kadou est...
Monsieur le surveillant. Tu m'as bien compris? Pour toi, c'est monsieur le surveillant, ok?
Oui, monsieur le surveillant. Je suis désolé.
Je vous préviens. C'est la dernière fois que je vous entends vous plaindre. Vous voulez vous faire punir comme hier? Vous voulez que je vous frappe?
Non, monsieur le surveillant. S'il vous plaît, ne nous frappez pas. Je veux retourner à la maison. Je veux ma maman.
Retour à la réalité à présent, une réalité qui n'est pas forcément plus agréable. Troubles politiques, violences et famine en République démocratique du Congo ont contraint près de 5 millions de personnes à quitter leur domicile pour prendre la fuite. Ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Ils doivent aider leurs parents et contribuer à la survie de la famille. Dans l'est du pays, on assiste à des scènes inquiétantes. On oblige des enfants parfois dès l'âge de 5 ans à porter des sacs pleins de sable. Leur salaire est dérisoire, l'équivalent de 30 centimes d'euros ou 200 francs CFA pour 25 kilos de ce matériau de construction bon marché. Françoise creuse dans le sable à main nue. L'adolescente de 14 ans remplit à moitié un sac vert et puis elle le soulève de toutes ses forces. Un jeune garçon d'à peine la moitié de son âge prend alors la charge sur sa tête et se met en route d'un pas vacillant. Aidez-moi, crie une petite fille qui est incapable de soulever son sac toute seule. Quelques enfants accourent pour donner un coup de main et unissent leurs forces jusqu'à ce que la petite arrive à maîtriser le sac en équilibre sur sa tête. Françoise regrette le temps où les enfants vivaient une vie normale.
Avant, nous allions tous à l'école, mais maintenant, nous devons travailler et gagner de l'argent pour pouvoir manger.
Ce travail de forçat dans la carrière de sable sur la rive du lac Tanganyika est le seul que les enfants puissent avoir.
Je transporte du sable, c'est très lourd et les trajets sont longs. Je travaille de 4h30 du matin jusqu'à 8h et je recommence à 16h. Le soir à 19h, je suis épuisée.
Françoise vit dans une cabane de fortune faite de bâches en tissu et en plastique. Sa famille s'est réfugiée dans le camp de Kaseke, dans le sud-est de la RDC. Elle a fui devant les milices armées et autres bandes en tout genre qui pillent, violent et tuent aveuglément. Environ 650 000 personnes dans cette seule province ont été déplacées. À l'échelle du pays entier, c'est évidemment beaucoup plus. Les observateurs sont alarmés, à l'image de Mark Lowcock, coordinateur des affaires humanitaires aux Nations Unies.
13 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Plus de 4,6 millions d'enfants sont sous-alimentés, dont 2,2 millions en sévère dénutrition.
Et pourtant, l'aide internationale n'arrive qu'au compte-gouttes. Même la conférence des donateurs pour le Congo, en avril dernier, n'a rapporté qu'à peine un tiers du budget nécessaire. Donc, les enfants doivent mettre la main à la pâte. Pour la survie de tous, confie Philippe Malisawa, le père de Françoise.
Non, para, on ne fait pas de transport, on ne travaille jamais comme ça. On croisait seulement la main, mais le papa nous donne à manger. Mais maintenant, comme nous sommes déplacés, nous souffrons quand même d'une façon extraordinaire.
Philippe Malisawa n'a jamais dû travailler en tant qu'enfant pour manger à sa faim. C'est d'autant plus douloureux pour lui de voir que sa propre fille doit se tuer à la tâche. La longue procession d'enfants lourdement chargés traverse la route à la circulation dense. C'est dangereux, mais ils n'ont pas le choix, car leur destination est de l'autre côté de la voie. Une société de construction qui utilise le sable comme matériau bon marché. Toi là-bas, verse le sable, ordonne le contremaître. Françoise vide son sac à demi-plein sur un immense tas de sable et se met en chemin pour retourner dans la carrière, remplir son sac à main nue et charger un nouveau fardeau.
Je suis très triste, rien n'est bon ici. C'est très mauvais. Le travail est difficile parce que le sable est lourd et nous sommes tellement fatigués.
Les plus jeunes dans le groupe ont à peine 5 ans. Ils portent de grandes calebasses aussi souvent qu'ils peuvent. Plus on transporte, plus on gagne d'argent. Le sable est payé au poids, moins d'un centime d'euro par kilogramme, autrement dit, un peu moins de 8 francs CFA. Un salaire de misère, certes, mais tout est bon à prendre quand on a tout perdu.
J'aimerais qu'on arrête de transporter du sable et qu'on retourne à l'école.
Un souhait compréhensible de la part d'une jeune fille qui ne demande qu'à vivre une vie tranquille, loin de la géopolitique et de l'économie des matières premières. Merci à Linda Staude qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur.
Annelise Marie Frank, plus connue sous le nom d'Anne Frank, est née le 12 juin 1929, il y a de cela 89 ans, jour pour jour, à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. La famille fuit à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1933, pour échapper aux persécutions nazies à l'encontre des Juifs. Alors que les Allemands occupent Amsterdam depuis 2 ans, la famille Frank se cache en juillet 1942 dans un appartement secret aménagé dans l'annexe de l'entreprise du père. Anne a alors 13 ans et se met à écrire un journal intime. Après 2 ans passés dans ce refuge, ils sont sans doute trahis et arrêtés le 4 août 1944, puis déportés vers les camps d'extermination nazis. 7 mois après, Anne meurt du typhus dans le camp de Bergen-Belsen. Son père Otto, l'unique survivant du groupe, revient à Amsterdam après la guerre et apprend que le journal d'Anne, dans lequel elle relate sa vision des événements de juin 1942 jusqu'au 1er août 1944, a été préservé. Convaincu du caractère unique de l'œuvre de sa fille, il décide de la faire éditer et le texte original en néerlandais est publié en 1947. Le journal d'Anne Frank est devenu depuis l'un des livres les plus lus dans le monde et plusieurs films, téléfilms, pièces de théâtre et opéras en ont été tirés. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Le podcast est disponible sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programme sur la DW. Salut!